franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Il aurait pu parler d'une ânerie, d'une bêtise, d'une bévue, d'une boulette ou d'une faute. Il aurait pu parler d'une gaffe, d'une imbécilité, d'un impair ou d'une maladresse. Mais non, Manuel Valls a choisi d'utiliser le mot bourde. Son aller-retour Poitiers-Berlin afin d'aller soutenir son équipe de cœur, le FC Barcelone. Pour lui, c'était donc une bourde. Il emploie le mot deux fois dans l'interview qu'il a donnée au journal du dimanche. « J'ai pu donner l'impression aux Français que je ne me consacrais pas entièrement à eux. Je le regrette, dit-il. Ce fut une erreur, ce fut une bourde. » Et plus loin, en tentant malgré tout de justifier la présence de deux de ses enfants dans un avion de la République, comme tous les pères, surtout ceux qui sont souvent absents, j'aime passer du temps avec mes fils. Mais je suis Premier ministre, je dois être irréprochable, je comprends que les Français qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois puissent avoir été choqués par cette désinvolture. Il y a eu une bourde, je ne dois pas en commettre une deuxième. Manuel Valls fait ainsi amende honorable et c'est la première fois, note Cécile Amar, à qui il s'est confié, mais il y avait urgence. Vendredi, un sondage révélait que pour 2 Français sur 3, ce voyage à Berlin était une chose grave et 7 sur 10 affirmaient que l'image du chef du gouvernement s'était détériorée. Cependant, le plus grave de l'avis du philosophe Marcel Gaucher, c'est que Manuel Valls ait pu penser que cet aller-retour allait passer inaperçu. C'était, dit-il, prendre les gens pour des imbéciles, surtout venant d'un homme qui prétend incarner des valeurs morales. Il y a, poursuit Marcel Gaucher, une vieille règle en politique, quand on joue la vertu, il faut être vertueux. Mea culpa, donc, ce matin dans les colonnes du JDD, avec d'ailleurs un autre sondage, très différent du précédent. Diriez-vous que ce déplacement polémique va gêner l'action de Manuel Valls dans le gouvernement? Près de 60% des sondés répondent non. Et ils sont davantage encore à penser que le Premier ministre doit continuer à jouer un rôle important à l'avenir, d'où ce titre à la une, bourde avouée et déjà pardonnée. Du reste, même François Hollande semble avoir déjà pardonné. Il le dit ce matin dans Sud-Ouest, pour lui la polémique est close. Valls a toute sa confiance et c'est un bon Premier ministre. Une interview dans laquelle le Président de la République dit aussi son opposition à une réorientation du pacte de responsabilité vers l'investissement. Ce pacte, dit-il, doit être respecté, c'est la parole de l'État qui est en cause. Et puis il fait cette annonce, une confirmation, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sera engagé dès 2016 pour être pleinement appliqué en 2018. Interview dans Sud-Ouest. Car aujourd'hui, François Hollande inaugure à Bordeaux le salon Vinexpo. Hier, il était aux 24 heures du Mans. Il s'est fait copieusement siffler cette fois. Et c'est une première depuis la création du salon. Il ira donc en pleine controverse sur la loi Evin à la rencontre des viticulteurs. Et le Parisien en profite pour nous raconter la petite histoire du vin à l'Élysée.
Oui, un titre en forme de question. Un verre de vin, monsieur le Président?
C'est Éric Caquement qui signe le papier. Récit des relations de nos chefs de l'État avec les bonnes bouteilles. Pas de quoi être très fier, car aucun locataire de l'Élysée ne s'est élevé grand connaisseur. Mitterrand buvait peu. Sarkozy ne boit pas. Quant à Hollande, lui, il aime tout, explique la sommelière du palais présidentiel. Le rouge, le blanc, le rosé, comme s'il cherchait le consensus jusque dans son verre. Enfin, du temps de la présidence Chirac, qui lui aimait surtout la bière, c'est Bernadette qui s'occupait de commander les bouteilles. Mais les soirs de dîner d'État, le sommelier de l'Élysée faisait des fiches à son mari détaillant les grands crus servis, et ce, afin qu'avec ses hôtes étrangers, Jacques Chirac évite de commettre des bourdes.
Des bourdes, avez-vous dit?
Toujours au rayon politique, le JDD nous apprend que Manuel Valls devrait de nouveau faire usage du 49-3 pour faire passer la loi Macron, et qu'il pourrait annoncer au début de la semaine des augmentations pour les fonctionnaires. Vous lirez aussi que Nicolas Sarkozy veut relancer le débat autour du droit du sol. Dans Le Monde, vous lirez que Cécile Duflot se prépare activement pour 2017. Sur le site du Point, vous lirez que François Hollande a dépassé le million de followers sur Twitter. On a les records qu'on peut. Et puis dans Le Parisien, vous lirez que Jean-Pierre Chevènement vient de claquer la porte de son parti, le MRC. Mais il y a plus grave encore, et c'est le titre à la une, la défiance des Français vis-à-vis des partis.
Parti politique révélé. Réveillez-vous, lance ainsi le quotidien.
Avec là encore un sondage. Sondage accablant qui montre une vraie détestation des partis politiques. Ils ne sont jugés ni honnêtes, ni proche des gens, ni apte à proposer des solutions. C'est d'ailleurs également le sujet qui fait la une de Marianne cette semaine. Squelette de dinosaure sur fond jaune à la une de l'hebdomadaire, référence cinématographique, c'est Politic Park ou pourquoi les partis sont maintenant dépassés. Le congrès de l'ex-UMP comme celui du PS en ont fait la démonstration, explique le magazine. On y a vu plus de querelles de personnes que de débats d'idées, des fonctionnements archaïques qui sonnent la défaite de la pensée et mettent la vie démocratique en danger. Alors la politique, est-ce que c'était mieux avant ? Oui, c'était mieux avant, affirme Guy Konopticki dans les colonnes de l'hebdomadaire. C'était mieux, dit-il, parce que les discours n'étaient pas ponctués de petites phrases uniquement destinées à faire les titres des journaux. C'était mieux parce que les rassemblements n'étaient pas mis en scène pour les caméras de la télé. C'était mieux, en somme, parce que la politique ne se résumait pas à un show médiatique. C'était mieux parce qu'on débattait, parce qu'on luttait pour des idées. Du reste, écrit Konopticki, les partis, comme le personnel politique, étaient eux aussi d'un tout autre niveau. Loin des plans de carrière des ambitieux d'aujourd'hui, à droite, les parents gaullistes avaient tous servi la France libre, et à gauche, le PC, le Parti communiste, éduquait les masses ouvrières. On lisait, on se cultivait, on apprenait à réfléchir. Et peut-être que du coup, on faisait moins de bourdes.
Dans la presse ce matin, il est aussi question des grosses bourdes des Bleus.
Les footballeurs français battus 1-0 par l'Albanie. Deuxième défaite en une semaine. Et surtout, bonnes vacances, ironise l'équipe, soulignant l'état désolant des joueurs de Didier Deschamps à seulement un an de l'Euro. Les footballeuses françaises battues 2-0 par la Colombie dans la Coupe du Monde féminine qui se dispute au Canada. Le Parisien parle d'une gifle et souligne que le deuxième but de l'équipe colombienne n'est dû qu'à une boulette d'une joueuse tricolore. Le mot bourde était adapté également. Ça, c'est donc pour le côté compétition, le côté noble, dirons-nous. Et pour mieux comprendre le côté plus sombre du football mondial, le côté affaire, pot de vin, malversation, je vous conseille la lecture du récit de François Tomaso, récit illustré par la plume de Nicobi dans le dernier numéro de la Revue des Cinés. Excellente revue qui montre que le journalisme peut se décliner avec des bulles et des croquis, en l'occurrence. Tomaso revient aux origines du mal, les origines du sport business au départ. Il y a une histoire familiale, l'histoire de deux frères, les Allemands Adolf et Rudolf Dassler, deux fabricants de chaussures qui vont s'engager dans une guerre commerciale sans merci. Le premier, Adolf, créant la marque Adidas. Le second, Rudolf, créant la marque Puma. Dans les années 50, leurs fils prennent le relais. Armin Dassler dirige Puma, Horst Dassler dirige Adidas, et c'est lui, ce mauvais génie, qui va comprendre l'intérêt des rendez-vous sportifs pour faire fructifier ses affaires. Avec une poignée de fidèles, c'est lui donc, Horst Dassler, qui va inventer le sponsoring des équipementiers manœuvrant pour que les athlètes fassent la promotion des chaussures aux trois bandes. C'est lui, le créateur du marketing sportif et du juteux marché des droits audiovisuels. Des années durant, Horst Dassler va imposer sa loi dans le milieu et imposer ses hommes à la tête des grandes fédérations internationales, notamment le CIO, mais aussi la FIFA, aujourd'hui dans le collimateur de la justice mondiale. C'est à Dassler que Sepp Blatter doit son entrée dans les instances dirigeantes de la FIFA. Corruption, petits arrangements et l'argent sale qui coule à flot. Adidas, le symbole d'un capitalisme cynique, c'est l'empire du jeu, la saga Dassler. Et c'est donc à lire dans la Revue Dessinée. Deux autres conseils de lecture, tout d'abord dans Le Monde. Le reportage sidérant d'Annick Cojon sur les millions de fillettes mariées de force chaque année à travers la planète. 15 millions de fillettes mariées de force chaque année, parfois dès l'âge de 8 ans. C'est une barbarie. Et puis dans Society, le portrait de Pablo Iglesias qui pourrait bientôt présider aux destinées de l'Espagne. Qu'y a-t-il derrière son catonan ? On apprend dans le papier que Pablo Iglesias s'inspire beaucoup de la gestuelle et de la façon de parler d'un certain Barack Obama. Enfin, dans Marianne, une histoire qui révèle que les chirurgiens sont parfois vraiment tête en l'air. C'est le constat qu'a pu faire cette jeune femme jordanienne qui se plaignait de douleurs au ventre et de tremblements bizarres quelques jours après son accouchement par césarienne. Les médecins lui ont fait passer une radio et dans son ventre, ils ont trouvé un téléphone portable. Téléphone oublié donc par le chirurgien qui l'avait accouché. L'appareil était, semble-t-il, resté en mode vibreur. Et là, évidemment, on peut parler d'une sacrée bourde.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.